Merci à tous d'être là. On ouvre aujourd'hui la première séance d'un nouveau séminaire de recherche que l'Institut national du patrimoine a décidé d'organiser cette année sur les patrimoines africains. Donc ce séminaire abordera différentes problématiques liées à l'histoire et au patrimoine d'Afrique subsaharienne, parce qu'on considère qu'ils sont un peu méconnus et que la recherche s'est beaucoup développée sur ces sujets-là ces dernières années. Donc, on voulait donner un état des lieux de cette recherche. Une conférence par mois jusqu'en juin permettra d'aborder des problématiques allant donc de la conception du patrimoine en Afrique subsaharienne au nouveau musée en Afrique, au patrimoine naturel, au patrimoine bâti également et à l'histoire des relations culturelles entre la France et l'Afrique. La prochaine séance aura lieu le 2 février. Elle est commune à un autre séminaire qui s'appelle Ce que patrimoine veut dire et aura donc un horaire différent. Je laisse la parole à Christian Autain, directeur des études du département des conservateurs de l'INP.
Merci beaucoup, Émilie, et bonjour à tous. Et merci d'avoir introduit cette première séance donc, de notre séminaire consacré au patrimoine en Afrique, qui s'inscrit dans l'ensemble de la programmation scientifique et culturelle de l'Institut national du patrimoine. Alors, pour cette première séance, on est très heureux d'accueillir Julien Bondaz. Julien Bondaz, vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'Université Lumière, Lyon 2. Vous êtes également membre du laboratoire d'anthropologie de cette université, le laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains. Et vous êtes également chercheur associé dans une unité mixte de recherche CNRS, EHESS, Muséum national d'histoire naturelle, le centre Alexandre Coiré. Votre présentation s'intitule Des patrimoines subalternes, collections publiques et privées en Afrique de l'Ouest. La parole est à vous. Nous serons à votre écoute ensuite pour prendre les questions sur le fil de discussion et échanger avec vous et le public.
Merci beaucoup pour cette présentation. Et effectivement, je vais présenter des recherches qui ont été menées dans le cadre d'enquêtes ethnographiques sur la question des musées et, on va le voir, des collections privées et du marché de l'art en Afrique de l'Ouest. En l'occurrence, au Sénégal, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et c'est donc le point de vue d'un ethnologue, hein, sur ces questions. Et aussi, le point de départ, c'est la volonté d'interroger non pas quelque chose qui est largement travaillé, qui est la question de l'appropriation des objets, des œuvres d'art africains par les sociétés occidentales et leur présentation dans des musées en Europe, aux États-Unis, mais de renverser en quelque sorte la perspective et de se poser la question de l'appropriation des modèles muséaux par les sociétés africaines, en l'occurrence les sociétés d'Afrique de l'Ouest, et plus largement l'appropriation des pratiques de collection et donc de ce qu'on peut appeler le patrimoine de collection. Le point de départ, c'est l'idée selon laquelle la question des modèles muséaux, elle oblige à étudier, hein, dans le temps et dans l'espace, des formes muséales, et donc le transfert culturel, hein, de pratiques, de savoirs qui constituent le champ de la muséologie. Et une réponse rapide à un tel problème, à cette question du transfert culturel de pratiques et de savoirs liés à la muséologie, cette réponse rapide, elle pourrait se résumer à une critique du colonialisme, de l'impérialisme ou de la globalisation qui aurait conduit à l'imposition de modèles muséaux qui auraient été inventés au Nord dans les pays du Sud. Précisément, l'approche ethnologique, l'approche anthropologique de ces processus de diffusion et de ces transferts culturels a montré qu'une telle réponse était particulièrement limitée. Elle empêche de penser de tels phénomènes, soit en termes de pertinence culturelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle certaines pratiques ou certains savoirs rencontrent un succès suffisant pour être reproduits, pour être diffusés, et aussi en termes d'appropriation, de réappropriation, hein, la localisation des formes muséales produit à chaque fois des logiques de récupération, de transformation qui s'expliquent par des enjeux de savoir et de pouvoir qui sont locaux. Et avec un certain nombre de collègues, Florence Grézer-Bideau, Cyril Isnard et Anaïs Leblon, on avait proposé en 2014 d'interroger les vocabulaires locaux, ce qu'on avait proposé d'appeler les vocabulaires locaux du patrimoine, c'est-à-dire la manière dont se déclinent localement les outils de la patrimonialisation et, pour ce qui m'intéressait, les appropriations de l'idée de collection. Et en 2016, dans cette même logique, autour de Barbara Cassin, a été proposé de réfléchir aux intraduisibles du patrimoine en Afrique de l'Ouest, dans cette même logique de questionner les vocabulaires locaux du patrimoine. Et je ne vais pas développer sur ce point-là, il faudrait à chaque fois rentrer dans des considérations ethno-linguistiques, mais insister sur le fait que très souvent, dans les langues de mes interlocuteurs, interlocutrices sur le terrain, le patrimoine est traduit par des termes qui évoquent plutôt la tradition. Et donc, il y a une équivalence forte qui se tisse entre le vocabulaire de la tradition et le vocabulaire du patrimoine. Ce qui m'intéresse, ce que je vais faire rapidement aujourd'hui, c'est de questionner les pratiques de collection et d'exposition en situation postcoloniale en tant qu'outil de légitimation des rapports de pouvoir locaux et d'interroger les effets de leur caractère subalterne ou du caractère hégémonique des modèles muséaux sur la construction de savoirs globaux sur l'art des sociétés extra-occidentales et en l'occurrence des sociétés ouest-africaines. Autrement dit, le propos, c'est d'envisager, de coupler la réflexion sur la circulation et la restitution des biens culturels qui a été largement débattue depuis la remise du rapport Sarre-Savoie, dont vous avez sans doute entendu parler, ce rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, qui a pour sous-titre « Vers une nouvelle éthique relationnelle ». De coupler donc cette remise il y a 2 ans de ce rapport à une réflexion sur la circulation des pratiques de collection et d'exposition, et donc de dépasser le grand partage, la grande opposition entre les sociétés occidentales et les sociétés africaines. On peut formuler les choses en termes de valorisation culturelle par le bas, de décentrer la réflexion et de réfléchir à ce qu'on pourrait aussi appeler une muséologie par le bas. Et je fais ici référence aux analyses d'un politiste spécialiste de l'Afrique centrale qui parlait de politique par le bas pour réfléchir aux manières dont les acteurs, de manière ordinaire, de manière au quotidien en quelque sorte, travaillent par le bas les rapports politiques. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de les déplacer dans le champ de la muséologie. Ça a bien sûr des implications théoriques. Il faudrait développer, je l'évoque rapidement en introduction simplement, mais il faudrait développer l'intérêt heuristique qu'il y a à distinguer la notion de décolonisation et celle de décolonialisation. On en entend largement parler dans les médias et dans les réflexions qui sont conduites dans le champ de la muséologie autour de l'idée d'un musée décolonial, mais découpler ces deux notions, décolonisation et décolonialisation, ça permet, à mon sens, de poser d'un côté la question, on va l'évoquer plus longuement, de la nationalisation des modèles muséaux issus de l'héritage colonial, c'est la question de la décolonisation, mais aussi de voir comment certains schèmes muséaux sont encore prégnants dans les musées ouest-africains. Ils sont issus de cette période coloniale, mais doivent être décolonialisés en termes épistémologiques cette fois-ci. Donc, ça permet de découpler, on va dire, un processus historique et politique, la décolonisation, avec un processus épistémologique, la décolonialisation. Et ça oblige à interroger le principe même de la collection, du rassemblement d'objets à des fins de conservation et d'exposition. Et je renvoie à un des nombreux chantiers qui s'est ouvert ces dernières années, qui est conduit au Sénégal autour du musée Théodore Monod d'art africain, avec une recherche collective intitulée « Troubles dans les collections ». C'est une recherche qui est portée par le directeur du musée national, du musée, pardon, d'art, Théo, du, pardon, du musée Théodore Monod d'art africain, El Hadji Malik Ndiaye, avec trois chercheuses, hein, Emmanuel Cherel, Marianne Nourgoni et Lotte Arndt, avec cette idée que réfléchir épistémologiquement aux restes coloniaux dans les collections produit du trouble dans ces collections. Mais ça a bien sûr, à mon sens, des implications avant tout méthodologiques, et c'est l'idée que l'approche ethnographique peut nous renseigner sur les activités et même sur la vie quotidienne des acteurs qui sont concernés, et donc de ne pas se limiter pour comprendre ces phénomènes à interroger les responsables des institutions muséales ou les grands collectionneurs, hein, mais aussi d'observer au quotidien l'ensemble des agents des musées, hein, en particulier les gardiens de salle, les guides, etc., et les amateurs d'art africain les plus modestes, c'est-à-dire des acteurs qui sont en position subalterne du point de vue des hiérarchies professionnelles et sociales locales. Un premier point va permettre de mettre en avant le lien évident, historique, entre les musées et le colonialisme en Afrique de l'Ouest. La plupart des musées ouest-africains, en tout cas les musées nationaux en Afrique de l'Ouest, sont issus de musées coloniaux. Et dans le cas qui m'intéresse, dans les pays anciennement colonisés par la France en Afrique de l'Ouest, c'est l'Institut français d'Afrique noire, l'IFON, qui a joué un rôle central dans la constitution de collections variées, notamment archéologiques et ethnographiques, hein, mais pas seulement, des collections naturelles également, des collections archéologiques et ethnographiques qui sont d'abord rassemblées à Dakar, où était basé l'Institut français d'Afrique noire, puis dans les centres locaux de chacune des capitales de ce qui constituait alors l'Afrique occidentale française. Et donc, pour Théodore Monod, le directeur de l'IFAN, hein, il prend la direction de l'IFAN, c'est le premier directeur de l'IFAN, il en prend la direction en 1938, et l'objectif, c'était de créer une chaîne, je le cite, hein, une chaîne des musées ouest-africains. Et la plupart des centres locaux de cet Institut français d'Afrique noire, dans chacune des colonies, hein, possédaient des collections, un espace d'exposition qui mettait en valeur le territoire de la colonie. Ces musées, ces petits musées, hein, des musées embryonnaires, étaient donc conçus comme des condensés de la colonie, hein, pour reprendre une expression de Nelly Alias. Seul le musée de l'IFAN, donc je vous ai mis une carte postale qui date du sortir de la Seconde Guerre mondiale, seul ce musée de l'IFAN à Dakar présentait des collections de l'Afrique occidentale française dans son ensemble, et pas seulement de la colonie du Sénégal. C'était en quelque sorte l'Institut fédéral et donc le musée fédéral de l'AOF, de l'Afrique occidentale française. Alors, c'est un musée qui, en fait, a longtemps été virtuel, puisque c'est seulement en 1961, après l'indépendance du Sénégal, qu'un véritable musée est construit. Mais dès le sortir de la Seconde Guerre mondiale, des expositions sont organisées et surtout des collections sont constituées en grand nombre. Sur les cartes postales de l'époque, etc. Le bâtiment de l'IFAN, de cet institut de recherche, était déjà présenté comme un musée. On peut voir quelques images de mauvaise qualité des expositions temporaires, hein, qui sont organisées dans les salles de l'institut, sans qu'il s'agisse de musées à proprement parler. Et donc, dans les autres capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone, ce sont à chaque fois ces collections de l'Institut français d'Afrique noire qui constituent, au moment des indépendances, la base des musées nationaux, des tout récents musées nationaux. Et donc, avec les indépendances, on passe du musée colonial à un musée post-colonial, au sens historique, hein, du terme. Il ne s'agit plus de présenter un condensé de la colonie, mais bien ce que Anne Gaugh a appelé une synthèse de la nation. Et on assiste à des usages nationalistes, des formes muséales coloniales, et à proprement parler, donc, à des formes de décolonisation de ces musées. Ça a pour conséquence, pour les collections de ces musées, de requalifier ces œuvres d'art ou ces objets ethnographiques rassemblés dans ces musées coloniaux, de les transformer, de les requalifier. Ils ne sont plus exposés comme des témoins culturels, hein, mais comme des emblèmes soit ethniques, soit nationaux. Il y a tout un jeu de construction identitaire autour de ces objets, les collections muséales étant alors censées servir de support pour une représentation équitable et idéalement proportionnelle des différentes ethnies de chacun des pays. Le Musée national du Burkina Faso, par exemple, se fixe pour mission de conserver et d'exposer, je cite le projet de l'exposition inaugurale du musée, les témoins matériels et immatériels les plus représentatifs de l'identité culturelle des différentes composantes de la nation burkinabé. Alors, cette situation contradictoire, en quelque sorte, elle conduit à la récupération, selon des modalités diverses, par les nouveaux États indépendants d'Afrique de l'Ouest, des musées coloniaux, conjointement à des dénonciations, parfois violentes, des formes de muséalisation, une critique des musées, c'est-à-dire une critique de l'exercice autoritaire du regard muséal. Je vous ai mis une citation, il y en a de nombreuses, mais c'est une citation connue de Stanislas Adotevi, un texte de 1971, un texte fameux dans cette histoire de la critique de la muséalisation de l'Afrique. Adotevi invitait à prendre position contre tous ceux qui veulent faire du tiers-monde et du continent africain en particulier un musée, c'est-à-dire au-dessus de la profusion du sol et du sous-sol, une vitrine de squelettes et de mannequins mortellement ennuyeux. Alors, ce développement d'une critique postcoloniale a favorisé l'émergence d'interrogations fortes sur le rôle du musée en Afrique dès les années 70 et dans la décennie qui a suivi, la dénonciation des idéologies, des stéréotypes qui avaient présidé à l'appropriation, à la mise en scène de collections exotiques par les musées occidentaux. Et donc, ces deux champs de réflexion, critique des musées sur place et critique de l'appropriation des biens culturels africains, pour reprendre une expression actuelle, dans les musées, par les musées occidentaux. Ces deux champs de réflexion participaient en fait d'un même mouvement de remise en question théorique et pratique de la muséologie, qualifiée de nouvelle muséologie ou de muséologie critique dans le monde francophone. Un mouvement qui s'est également illustré par de nombreux travaux anglo-saxons participant des museum studies. Et donc, on assiste à nombreux appels à africaniser les musées, ou à, je vais citer Alpha Oumar Konaré cette fois-ci, dans un texte de 1992, à tuer le modèle occidental de musée en Afrique. Mais dans cette critique émerge pour l'Afrique de l'Ouest et plus largement au niveau international un musée particulier, original, profondément original, le Musée national du Niger, comme modèle d'un écomusée africain. C'est une création, on va dire, tardive, du colonialisme tardif. Là encore, c'est à partir du centrifan de Niamey, la capitale du Niger, que va se construire ce musée national, d'abord sous la forme d'un simple pavillon d'exposition, et très rapidement est expérimenté un écomusée, un véritable écomusée. Ce pavillon existe toujours, il est désormais nommé pavillon classique. Il a été longtemps nommé pavillon Boubouama, du nom du directeur du centrifan, puis chef du Parlement du Niger indépendant. Et le Musée national du Niger porte aujourd'hui le nom de Boubouama. Ce musée est original parce que très rapidement, les pavillons d'exposition vont, au cours des années 60-70, être complété par de nombreuses autres installations, notamment des reconstitutions d'habitats traditionnels qui sont réfectionnées régulièrement. Là, c'était la reconstitution de ces habitats traditionnels en 2008, mais dès les années 60, on met en place ces habitats traditionnels. Habitats traditionnels qui sont occupés par des artisans qui travaillent devant les visiteurs, qui produisent notamment des poteries, des bijoux. Il y a notamment toute une tradition de la bijouterie et de l'orfèvrerie touareg qui est valorisée dans dans cet espace d'habitat reconstitué. Et rapidement, je reviendrai à la citation dans un instant. Et rapidement, la mise en place également d'un centre artisanal au sein du Musée national du Niger. Donc là, je vous ai mis le centre artisanal à la fin des années 60 et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le premier directeur de ce Musée national du Niger explique ce projet d'écomusée en notant « Rien n'a été oublié pour que le visiteur ait l'impression de voir un habitat authentique, sans aucune mystification, reconstitué avec un respect absolu des traditions et des usages particuliers à chaque groupe. L'idée, c'est que toutes les ethnies qui composent la nouvelle nation indépendante qu'est alors le Niger soient représentées dans l'espace muséal. » Alors, il y a un grand succès de ce musée. Hein, le président de l'ICOM, Varine Bohan, par exemple, le visite et note que son caractère unique, je cite Hugues de Varine Bohan, son caractère unique dans l'Afrique contemporaine le prédestine à un rôle de modèle pour les musées à organiser et à réorganiser dans d'autres pays. Et il se prononce en faveur de l'exploitation, je cite de nouveau, en faveur de l'exploitation du musée de Niamey comme facteur de développement des musées dans d'autres pays africains. Et donc cet écomusée, il est proposé aussi comme une forme d'innovation en termes de développement. Il déclare même en 1969 hein, que le musée, sur le modèle du Musée national du Niger, le musée doit être décolonisé culturellement. Et donc, ce n'est pas seulement une innovation muséale originale, hein, très originale, mais c'est aussi un musée qui apparaît comme un musée décolonisé. Et donc, avec le Musée national de Mexico, c'est l'un des deux musées qui est proposé comme modèle pour les musées du tiers-monde. Le directeur adjoint du Musée de l'Homme, Robert Gessin, écrivait pour sa part que le Musée national du Niger, je le cite, est un modèle non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe. Et on dépasse même l'idée que ce type de proposition écomuséale soit réservé au tiers-monde. Alors, il y a une autre originalité dont je ne vous ai pas encore parler, qui explique le caractère totalement hybride de cet écomusée africain, c'est que parmi les pavillons d'exposition, mélangés aux pavillons d'exposition, on trouve toute une série de bassins, d'enclos, de cages, puisque le musée est aussi non seulement un écomusée, un centre artisanal, un musée habité par une population de plus en plus nombreuse, d'ailleurs. Hein, au moment où j'ai mené mes recherches, à la fin des années 2000, dans ce musée, il y avait plus de 200 personnes qui habitaient au sein de l'espace muséal. Mais de nombreux animaux sauvages sont exposés au sein du musée. Donc là, je vous ai mis une photographie autour du bassin de l'hippopotame, mais on trouve toutes sortes d'animaux sauvages, mais des animaux sauvages qui représentent là encore le territoire national, puisque ce sont des animaux du cru, hein, des animaux qui ne sont absolument pas exotiques pour la population sur place, qui sont simplement des animaux qui vivent en brousse et qui sont difficilement observables pour les citadins, pour les habitants de Niamey. Donc on trouve des lions, des singes, des hyènes, des hippopotames, des oiseaux, etc. etc. C'est ce musée qui, jusque dans les années 80, devient un modèle pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et pendant un temps, il va influencer les projets de musées nationaux en Haute-Volta, à l'actuel Burkina Faso, ou au Mali également. Ces différents musées étatiques, hein, dans leur fonction de mise en scène de la nation. Et là, je vous mets un exemple qui est celui du pavillon des costumes au Musée national du Niger, qui montre bien comment la valorisation des costumes des différentes ethnies est à la fois un projet muséal et un projet politique, hein, ce que traduit bien la série de Tam qui est éditée en 1963 pour valoriser cette unité représentée par le pavillon, en même temps que la diversité des tenues traditionnelles attachées à chacune des ethnies. On voit qu'il y a une logique de typicité, hein, qui est à l'œuvre à chaque fois sous sous le titre Musée du costume, hein, qui renvoie au pavillon du costume au sein du Musée national, on voit indiquer le nom des ethnies représentées, femmes Beri-Beri, femmes Haoussa, etc. Ce musée national du Niger et puis les autres musées dans la sous-région dans les années 80 continuent d'être présentés comme des musées ethnographiques. L'objectif est de proposer ou d'exposer l'ethnographie nationale. Je reprends une expression qu'on retrouve dans les projets de ces différents musées. Et l'exception la plus notable, c'est le musée Théodore Monod d'art africain, qui assume la qualification artistique et non pas ethnographique de ses collections, et qui, de ce point de vue, fait longtemps office d'exception dans le paysage muséal ouest-africain, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest francophone, musée Théodore Monod d'art africain. Alors, il faudrait signaler aussi le musée national de Côte d'Ivoire, mais dont je ne vais pas vous parler plus que ça, parce que je n'ai pas étudié ce musée-là. Et donc, cette prédominance de l'ethnographie, cette conception d'une ethnographie qui se veut nationale dans les pratiques de collection et d'exposition va conduire à reproduire ce que Philippe Ravanil, l'historien de l'art africain Philippe Ravanil, a proposé d'appeler le paradigme ethnique. C'est un paradigme qui est hérité de la période coloniale et qui continue aujourd'hui encore de prédominer. C'est l'idée selon laquelle il y aurait une équivalence entre le style des objets exposés et le groupe ethnique de leurs producteurs, de leurs utilisateurs. Et ça, c'est un paradigme qui a longtemps été central, non seulement en muséologie, mais en ethnologie dite africaniste, hein, l'idée qu'il y a une équivalence entre un art, un style artistique et une identification, une détermination en quelque sorte ethnicisante. Depuis quelques décennies, pourtant, les historiens de l'art africain dénoncent ce type de réduction ou d'ethnicisation, mais ce paradigme ethnique continue d'être en vigueur dans de nombreuses approches théoriques de l'art africain. Il continue de dominer les choix muséographiques et il continue, bien sûr, d'irriguer le marché de l'art africain. Autrement dit, la valorisation culturelle des collections muséales conduit à occulter les producteurs des objets, les individus qui produisent les objets, et donc à mettre hors champ les acteurs individuels au profit d'une culture qui est présentée comme homogène. Je cite ici Jean-Paul Collen, l'anthropologue Jean-Paul Collen, hein, qui montre comment ce paradigme a primé en ethnologie. Pendant des dizaines d'années, l'amalgame une race, une langue, une religion, un art a été le postulat princeps de l'ethnologie africaniste. L'inanité de cette entreprise a été maintes fois démontrée, mais il s'en faut beaucoup pour que ses effets seconds soient entièrement dissipés. Et dans un autre contexte, je renvoie aux propos de Mauro Peressini dans un article de 1999, hein, qui montre bien comment l'ethnicisation des objets conduit à une approche culturaliste qui revient à valoriser la culture au détriment des individus. Les acteurs sociaux concrets qui ont fabriqué et utilisé les objets sont vus comme les exécutants d'une culture qui, elle, devient le véritable producteur et utilisateur du groupe. Et c'est donc cette approche ethnographique et ethnicisante qui a prévalu et qui continue de prévaloir dans la plupart des musées ouest-africains. Le musée national du Mali, dans les années 80, remplace le musée national du Niger en tant que modèle pour toute la sous-région. Jusque dans les années 2000, le musée national du Mali était vraiment le nouveau modèle de présentation des objets. Je vous ai mis des photographies du mode d'exposition dans les années 80. On voit bien l'importance du travail de contextualisation, de la mise en scène des objets qui marque la muséographie ethnographique. Dans les années 2000, sous l'impulsion de Samuel Sidibé, le directeur du Musée national du Mali, une volonté de présenter certains objets, les objets rituels, magico-rituels, de manière plus esthétique. Je vous ai mis une vue d'une des trois salles d'exposition permanente du musée dédiée aux chefs-d'œuvre d'art rituel. Et puis même dans la salle des textiles, dans l'autre exposition permanente, qui est la salle des textiles du Mali, des choix muséographiques qui s'éloignent des dispositifs d'exposition ethnographique pour aller vers quelque chose de plus esthétique. On retrouve aussi ce type de présentation plus esthétisante dans un musée qui a moins de moyens, un musée national qui a moins de moyens financiers pour la scénographie, qui est le musée national du Burkina Faso. Là, on est dans les années 2010, au début des années 2010, pardon. La scénographie a été reprise et a été pensée de manière plus esthétique, si on peut dire les choses comme ça. Je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, revenir sur la question du culturalisme et voir quel biais ce type d'approche des objets peut produire. Puisque dans les musées, on le verra aussi comme pour de nombreux collectionneurs privés, il y a des connexions entre la culture et la tradition, hein, ce qui revient généralement à postuler une équivalence entre ces deux termes, culture et tradition. La notion de culture, la référence au passé sont mobilisées conjointement pour produire un discours sur les identités locales. Et c'est ce que l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan a proposé d'appeler un culturalisme traditionnaliste, c'est-à-dire que la valorisation de la culture est pensée comme valorisation du passé, référence à la tradition. Et cette référence au passé, elle est ambivalente, puisqu'elle ne signifie pas nécessairement que dans ces musées, la dimension historique des collections se retrouve exposée. Autrement dit, la référence au passé, elle est souvent pensée aussi comme une référence à la ruralité, comme une référence aussi au village. Et là, je fais référence à un travail tout à fait intéressant de Julie Kella, qui va soutenir dans 2 jours une thèse intitulée « L'art, c'est comme un virus qui te pique, ethnographie de l'expérience esthétique de l'art africain chez les Burkinabés ». Et donc, elle a terminé sa thèse, elle la soutient après-demain, mais elle montre bien comment, à partir d'une ethnographie des amateurs d'art africain au Burkina Faso, la référence au village, l'imaginaire du village, permet de penser la culture. Et donc, l'opposition entre la modernité et la tradition, l'opposition en tout cas entre l'actualité et le passé, c'est aussi une opposition entre le contexte urbain et le contexte rural, ce que Julie Kella appelle un imaginaire du village. Mais ça revient à favoriser une présentation atemporelle des objets. Et on constate que dans la plupart des musées nationaux, peu d'objets historiques sont présentés, alors même que ce sont ceux qui intéressent le plus les visiteurs locaux, c'est ce que mes recherches m'ont permis de montrer. Les visiteurs locaux sont très intéressés par les témoignages historiques. Dans la mesure où les objets historiques renvoient à la fois à une époque révolue, à un temps des ancêtres qui est évoqué très souvent avec nostalgie, mais aussi avec fierté, à une histoire commune dans laquelle on peut se projeter, les visiteurs sont nombreux à réclamer des objets qui ont marqué l'histoire de leur propre pays. Par exemple, au Musée national du Burkina Faso, les visiteurs réclament de longue date une galerie des portraits des empereurs du royaume Mossi, un royaume africain important, un royaume qui concerne tout l'est du Burkina Faso, avec ses empereurs, ses moronabins, qui sont très connus pour les gens sur place et qui sont proposés comme des modèles et des héros historiques. À Bamako, autre exemple, les visiteurs étaient nombreux lors de mon enquête à regretter de ne pas voir exposé l'instrument de musique, le ngoni, d'un d'un célèbre griot, hein, Bazoumana Sissoko, qui est surnommé le vieux lion. Le ngoni, c'est un instrument de musique qui est pourtant conservé dans les collections et qui n'est pas exposé dans les salles du musée. C'est notamment sur cet instrument que le griot, que ce griot fameux, aurait composé la musique de l'hymne national du Mali. À Niamey, dernier exemple sur ce succès des objets historiques rattachés à l'histoire de la nation. À Niamey, au centre du pavillon des costumes que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la présentation du boubou, hein, de la tenue traditionnelle du premier président du Niger indépendant, Diori Amani, qui rencontre le plus grand succès auprès des visiteurs. La plupart des visiteurs déclaraient que leur objet préféré de tous les objets qui étaient exposés dans les différents pavillons du Musée national du Niger était ce boubou présidentiel, soi-disant porté lors de la déclaration d'indépendance du pays. Bref, je ne vais pas multiplier les exemples, mais il y a ce fort intérêt exprimé par les visiteurs et visiteuses pour des objets connectés à l'histoire de la nation. Non pas seulement historique, mais historicisé, dont on puisse raconter l'histoire et qui sont liés à des événements de l'histoire nationale. Mais finalement, dans les musées nationaux, l'approche historique reste largement absente. Le fait que ces musées nationaux soient avant tout pensés comme des musées ethnographiques et non pas comme des musées d'histoire, ça permet d'éviter des interprétations politiques, hein, de la mise en exposition. Et c'est ce que m'expliquait par exemple un responsable du Musée national du Burkina Faso en 2010, donc avant la révolution de 2014 qui a renversé le président Blaise Compaoré. Mais ce responsable du Musée national m'expliquait: le problème, c'est qu'on a peur de notre propre histoire. Si on exposait la tenue militaire de Sankara, de Thomas Sankara, le président que Blaise Compaoré avait lui-même renversé, si on exposait la tenue militaire de Sankara, c'est sûr qu'on attirerait du monde, mais les gens chercheraient forcément un message politique derrière ça. Cela ferait des histoires. Alors, si on renvoie aux analyses d'Alban Bensa, de l'anthropologue Alban Bensa, on peut constater qu'il y a trois images du temps, ce qu'il appelle des images du temps, il y a trois images du temps qui sont proposées dans les musées nationaux d'Afrique de l'Ouest. Une première image du temps, c'est à travers les collections paléontologiques et archéologiques qu'on va la découvrir. C'est la mise en scène d'un passé révolu, d'un temps préhistorique. Et des espaces spécifiques sont à chaque fois aménagés dans ce but. Pavillon d'archéologie et de paléontologie au Musée national du Niger, je vous en ai mis une vue qui permet de valoriser les découvertes paléo-archéologiques dans le désert du Sahara, sur le territoire nigérien. C'est le troisième espace d'exposition permanente au Musée national du Mali, intitulé « Le Mali millénaire », mais aussi à proximité du Musée national du Mali, et rattaché au Musée national du Mali, c'est un jardin de la préhistoire avec une reconstitution grandeur nature d'un dinosaure, par exemple. C'est plus récemment... dans l'espace central du Musée des civilisations noires de Dakar, qui a été inauguré en décembre 2018, un espace central dédié à l'Afrique comme berceau de l'humanité, avec des reproductions de restes paléo-anthropologiques. À travers donc ces aménagements, il s'agit de connecter l'histoire de ces différents pays à celle de l'évolution et de l'apparition du premier homme, du premier humain préhistorique, et donc au topos de cette Afrique envisagée comme un berceau de l'humanité, avec toute l'ambivalence qu'il peut y avoir autour de cet imaginaire du berceau de l'humanité. Alors, cette forte présence de l'archéologie dans les musées nationaux ouest-africains s'explique en partie par le fait qu'ils ont longtemps été dirigés par des archéologues et sont encore assez souvent dirigé par des archéologues. Mais dans les années 80, des années 80 aux années 2000, c'était principalement des archéologues qui s'occupaient de muséologie dans ces pays ouest-africains. La richesse des découvertes archéologiques sur le territoire national est par ailleurs célébrée, de même que le rôle pionnier de certains musées, je pense au Musée national du Mali, dans la lutte contre le pillage archéologique. Une deuxième image du temps fournie par les expositions muséographiques, c'est celle qui correspond à ce qu'on appelle le présent ethnographique. Les objets sont très généralement donnés à voir sans leur histoire. La date d'acquisition des pièces exposées est généralement manquante. L'anonymat de leur producteur est répandu, à la manière de ce qu'on peut observer dans de nombreux musées également en Europe ou aux États-Unis pour ce qui concerne l'art africain. Et le régime temporel des collections, c'est alors celui de sociétés qui seraient sans histoire, qui seraient enfermées dans un temps cyclique, traditionnel, et surtout, ce qui m'intéresse de mettre en avant, un temps qui serait pré-islamique. Et c'est un autre enjeu, à mon sens, c'est celui de la représentation des religions dans les musées ouest-africains, puisque si à travers les objets d'art dits rituels, l'animisme est fortement valorisé, et donc à travers les collections ethnographiques, c'est très largement l'animisme qui est valorisé, l'islam ou le catholicisme sont largement absents. Alors, c'était le constat qu'avait fait l'Organisation islamique internationale pour l'éducation, la culture et les sciences, l'équivalent, on va dire, islamique de l'UNESCO, d'où le nom d'ICESCO, ICESCO, Organisation islamique internationale pour l'éducation, la culture et les sciences, qui au début des années 2000 avait fait du lobbying, en quelque sorte, dans plusieurs pays ouest-africains pour que l'islam soit mieux représenté dans les musées nationaux. Ça avait conduit à quelques rares aménagements, et notamment à l'exposition de 3 objets dans le hall du Musée national du Mali, un petit espace donc dans lequel a été exposé de manière permanente une reproduction de la mosquée de Djenné, un exemplaire du Coran et une tablette coranique. Et c'est finalement fin 2018, avec l'ouverture du Musée des civilisations noires à Dakar, que cette question des religions révélées, la mise en exposition des religions révélées au sein des musées, a été posée de manière frontale, et un véritable espace, une vaste salle, est consacrée aux appropriations africaines des religions abrahamiques dans ce désormais fameux Musée des civilisations noires, sur lequel je ne vais pas insister puisque c'est le sujet de la prochaine séance de séminaire, ce Musée des civilisations noires. Mais je vous mets une vue parmi d'autres de cet espace consacré aux appropriations africaines des religions abrahamiques, qui est l'espace dédié à l'une des confréries soufis les plus importantes au Sénégal, le mouridisme, la mouridia. Et cet espace connaît un grand succès auprès des visiteurs, puisque notamment elle met en scène aussi quelque chose qui est important, c'est l'appartenance à des confréries soufis, quelque chose qui est très important, qui caractérise l'islam sénégalais. Je précise juste en passant que plusieurs confréries sont présentées, les confréries de soufis du Sénégal sont représentées dans cet espace, de même que le christianisme. Mais je vous ai mis une seule vue de cet espace. Une dernière image, enfin, du temps consiste en une mise en scène de la contemporanéité. Alors, bien sûr, il y a des. Je reviendrai sur ces diapos dans un instant. Il y a des expositions temporaires d'art contemporain ou de design africain. Je vous ai mis en haut à gauche une vue d'un vernissage d'une expo de design au Musée national du Mali en 2010. Mais sur la prise en charge de l'histoire contemporaine des sociétés, c'est finalement une catégorie de musées tout à fait intéressante qui s'est multipliée à partir des années 2000, mais dont le, le modèle pour l'Afrique de l'Ouest et le musée des armées du Sénégal, ce sont les musées militaires qui finalement assument le plus explicitement cette fonction de mise en scène de l'histoire récente de la construction des identités nationales à travers une valorisation du rôle joué par l'armée et plus largement des grandes figures, des grands héros politiques des différentes nations. Donc, je vous ai mis quelques vues de manière transversale dans tous ces musées au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal. Chacun de ces pays a produit son propre musée de l'armée ou des armées ou des forces armées. C'est la même chose d'ailleurs en Côte d'Ivoire, par exemple, même si je n'ai pas pu étudier ce musée ivoirien. De manière transversale, c'est la figure du tirailleur sénégalais qui est valorisée et qui permet de construire quelque chose autour d'une identité commune ouest-africaine, autour de cette figure du tirailleur sénégalais. Alors, bon, il faudrait développer bien plus longuement, mais c'est pour noter l'importance de ces musées des forces armées et puis insister en passant sur le rôle pionnier de celui du Sénégal. Ce n'est pas un hasard, hein, si dans les réflexions récentes sur la muséologie et le rôle des musées en Afrique de l'Ouest, la question des musées militaires s'est posée de manière assez centrale, notamment lors d'un séminaire qui avait été organisé à Dakar, les musées au service du développement. Je cite une des conclusions de ce séminaire, « Les musées militaires jouent un rôle non négligeable dans la conscientisation des dirigeants et des populations aux enjeux, aux impacts des guerres, ainsi qu'aux valeurs de la paix et à l'éducation de tous à la citoyenneté. » La muséologie militaire est alors envisagée comme un moyen de défendre la paix et l'unité nationale. Ils sont envisagés comme des outils d'unité nationale, comme des outils de maintien de la paix, et apparaissent en ce sens comme des relais ambigus des musées ethnographiques. Je vous ai mis aussi une vue sur la question de la valorisation du contemporain. C'est une autre spécificité que je voulais mentionner en passant de ce musée des civilisations noires de Dakar, dont vous allez entendre parler bien plus longuement lors de la prochaine séance du séminaire. C'est la création de deux espaces, même d'un vaste espace, deux grandes salles dédiées à l'art contemporain et qui reprend d'ailleurs, qui s'inscrit dans la continuité de la Biennale d'art contemporain de Dakar en exposant un certain nombre d'œuvres primées lors de la Biennale d'art contemporain de Dakar. Mais il s'agit là d'expositions permanentes, ce qui est une nouveauté dans le cadre de ces grands musées nationaux. J'en arrive à mon troisième et dernier point pour poser la question des collections privées, des collectionneurs les plus modestes et des musées privés. Donc, je m'éloigne maintenant des grands musées portés par des programmes nationaux, et montrer comment, en fait, dans l'économie du patrimoine de la valorisation du patrimoine de collection en Afrique de l'Ouest, on assiste à une occultation de longue date des collectionneurs locaux, des collectionneurs privés locaux, et plus largement, on assiste dans la construction des théories concernant l'art africain, dans la production de savoir sur l'art africain, les collections privées rassemblées sur place par des collectionneurs africains et très largement occultées. Pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, un des premiers à avoir dénoncé cette occultation des pratiques locales de collection, c'est un Nigérian, un historien de l'art nigérian, professeur d'histoire de l'art aux États-Unis, Sylvester Ogbeshi, qui en 2012 a consacré un ouvrage à la collection d'un banquier nigérian, ouvrage dans lequel il dénonce, je cite, la marginalisation et la quasi-invisibilité des collections africaines. Il dénonce aussi leur exclusion des systèmes de ce qu'il appelle les systèmes d'authentification et le processus de légitimation de l'art africain. Et selon lui, et il rejoint d'autres chercheurs, tout se passe comme si les objets culturels africains ne devenaient des œuvres d'art qu'une fois arrivés en Occident. L'histoire de l'art africain paraissant commencer avec l'entrée des objets dans les collections occidentales. Et en fait, si on pose la question des différents statuts des collections, des différents types de musées faisant l'objet d'une définition en Afrique de l'Ouest, ça oblige à repenser le rôle joué par ce patrimoine de collection dans la production de connaissances au sujet de l'art africain. Alors, si j'élargis cette question de la collection des collections des principaux musées vers des collections privées, des musées privés, des galeries d'art, des musées communautaires, etc., c'est parce que, en fait, sur le terrain, lors de la recherche, ces catégories de galeries d'art, de musées privés, de musées municipaux, de musées régionaux, de musées communautaires, de musées nationaux, se révèlent finalement souvent poreuses, en tout cas perméables. Puisqu'il y a des collectionneurs qui vont rendre publiques leurs collections, par exemple en créant des musées privés, dans une logique de légitimation culturelle de leur propre fonction politique, et il y a un rôle politique de la collection privée, de la même manière qu'il y a un rôle politique de la collection nationale, et des logiques également de valorisation du territoire. Je vais prendre deux exemples au Burkina Faso, puisque ce sont des exemples qui sont particulièrement évocateurs, mais on pourrait les multiplier. Ils sont évocateurs parce qu'on a affaire à des musées privés qui sont créés par des individus rattachés à des chefferies locales et donc à des lignages qui occupent des positions politiques dans le territoire concerné. Alors, ces deux musées qui sont difficilement comparables, parce qu'il y en a un qui est très connu, c'est le musée de Manega au Burkina Faso, qui a été créé par un avocat très, très connu au Burkina Faso, un maître Titinga Passeré, mais qui explique comment il a commencé à rassembler des collections, puis à créer un musée qui rassemble plusieurs pavillons d'exposition, en assistant un jour, alors qu'il était très jeune, au rasage de la tête de son père, qui était donc le roi, le chef traditionnel de Manega. La conservation des cheveux de son père, conservation des cheveux qui a un rôle, on va dire, à la fois rituel et politique, est présenté par Maître Titinga Passeré, rétrospectivement, comme le déclencheur de son goût pour la conservation et la collection du patrimoine culturel et artistique Mwaga, de cette ethnie Mossi, plus largement de tout le patrimoine africain. Et donc, les collections du musée de Manega sont exposées dans différents pavillons sur le modèle des anciens musées ethnographiques, avec un certain nombre de dioramas qui mettent en scène les collections rassemblées par Maître Titinga Passeré. L'autre exemple, c'est un exemple beaucoup plus modeste d'un autre roi, d'un autre chef traditionnel, celui de Bazoulé, un petit village au Burkina Faso, avec ce Naba, ce roi Kiba, qui a ouvert au début des années 2010 un musée pour présenter sa collection personnelle, qui est pour partie héritée de son père. Et donc, dans ces cas particuliers de création de musées privés, de collections privées, on retrouve le modèle historique du trésor qui est à l'origine d'un certain nombre de musées occidentaux, puisque les collections sont à la fois liées à un héritage familial dans un contexte politique bien spécifique, qui est le modèle de la chefferie, et des pratiques de collection qui vont accroître ce trésor initial. Ces projets de musées privés, on pourrait en multiplier les exemples. Un autre exemple au Burkina Faso, à Gourcy, c'est l'idée de valoriser la culture d'un autre groupe ethnique, Gurunsi, hein, et d'exposer une collection de masques dans un musée privé. À Dakar, sur la presqu'île de Dakar, aux Almadies, c'est un projet de musée de la culture casamançaise, hein, de valorisation de la Casamance, cette région au sud du Sénégal, qui est un projet de musée privé porté par un homme politique originaire de Casamance et qui souhaite valoriser dans la capitale du Sénégal ce territoire casamançais. Bref, je vais pas multiplier les exemples, mais il y a une explosion de projets de musées privés qui aboutissent ou non, etc., mais qui sont, depuis les années 2000, révélateurs de l'essor de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat culturel en Afrique de l'Ouest, et qui sont d'ailleurs très souvent perçus, ces projets muséaux, ils sont très souvent perçus par la population locale comme des moyens de capter des financements de l'État. On pourrait d'ailleurs parler d'entrepreneurs muséaux dans un certain nombre de cas. Mais ces connexions des musées privés avec les enjeux politiques locaux, qu'il s'agisse de liens avec des chefferies traditionnelles ou avec d'autres formes de représentation politique. Hein. Je pense par exemple au cas du musée casamançais qui est porté par un député et pas du tout par un chef traditionnel. Ces connexions des musées privés avec les enjeux politiques locaux, elles peuvent être interprétées comme des formes de médiation politique au niveau local. Les motivations politiques, on peut les retrouver, elles sont étroitement liées au monde du marché de l'art en Afrique de l'Ouest et à un certain nombre de figures de grands marchands d'art qui entretiennent des liens étroits très souvent avec les milieux politiques de leur pays. C'est le cas par exemple du collectionneur et marchand d'art sénégalais Murtala Diop, qui a créé son propre musée privé, le musée Relcom à Sali, hein, sur la petite côte sénégalaise, où il expose au rez-de-chaussée sa collection d'œuvres d'art contemporaines et d'œuvres d'art contemporain, pardon, et au premier étage sa collection d'art africain. À chaque fois, ces logiques de création de musées privés repose sur la volonté de collectionneurs de rendre publique leur collection et de la rendre accessible à leurs compatriotes. Dans cette logique de sensibilisation à l'art africain, les galeries d'art, les boutiques des marchands d'art, les lieux d'exposition marchande d'art africain sont aussi des espaces de médiation où se conjuguent la valorisation marchande des objets et leur valorisation culturelle. Et très souvent, les marchands d'art, les antiquaires, jouent aussi un rôle auprès des populations locales pour transmettre une série de connaissances au sujet des œuvres qu'ils commercialisent. Je vais peut-être passer un peu ça pour arriver à l'idée que de plus en plus de gens sur place achètent des œuvres et constituent des petites collections ou décorent leurs habitats, leur lieu d'habitation ou leur lieu de travail avec des objets d'art africain et se lancent donc dans des pratiques d'achat et parfois de collection. Et dans cette logique, un des ressorts, quand j'ai mené une enquête sur les collectionneurs d'art africain au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, ce qui apparaissait, c'est que la constitution d'une collection était souvent pensée comme un moyen de conserver sur place le patrimoine culturel. On retrouve ici une idée qui est aussi celle qu'ont observé Brigitte Derlon et Monique Jodi-Balini à propos des collectionneurs occidentaux, l'idée d'une collecte salvatrice. Il s'agit de sauver les objets de leur disparition et de participer à leur sauvegarde. Alors, je vais peut-être passer, j'avais prévu de vous faire une série de, de, de citation à propos des collectionneurs locaux, mais j'attire juste votre attention sur la dernière, citation. C'est un antiquaire sénégalais qui m'expliquait pourquoi il y avait de plus en plus de collectionneurs. Il y a beaucoup de collectionneurs. Comme autrefois, il y avait un véritable pillage. Les Occidentaux venaient, prenaient les objets et vendaient ça là-bas. Maintenant, les gens connaissent, ils ne vendent plus facilement. Ils préfèrent garder les objets ou les vendre aux enchères. Et en fait, le collectionneur africain, il se définit pas seulement comme un acteur de la sauvegarde du patrimoine culturel ou artistique, au même titre que les collectionneurs occidentaux, mais c'est le fait de conserver ce patrimoine sur place, en contexte, hein, qui fait toute la différence. Les collectionneurs ouest-africains, ils peuvent apparaître comme des figures de la résistance aux marchands d'art occidentaux accusés d'être des pilleurs. Et l'enquête a montré que, mes enquêtes ont montré qu'une visée panafricaine animait la plupart des collectionneurs. Il s'agit non seulement de rassembler des œuvres qui sont représentatives de leur pays, et très souvent aussi il y a des ressorts de construction d'identité ethnique, de rattachement à son ethnie. L'ethnicité, la nationalité constituent des éléments importants, mais au-delà, il s'agit de s'inscrire dans une visée panafricaine et d'essayer de rassembler des œuvres qui dépassent ces logiques ethniques et nationales. On retrouve ainsi dans les pratiques de collection privée des logiques qu'on a déjà évoquées tout à l'heure à propos des musées, mais des réflexions qui s'inscrivent aussi au-delà et qui sont représentatives des nouvelles attentes des publics locaux en termes d'ouverture en dehors du cadre national. Ce qu'il est important de retenir, à mon sens, c'est qu'il y a une sorte de continuum entre ces pratiques de collection, entre les pratiques de collection publiques et les pratiques de collection privées. À chaque fois, il y a un lien étroit entre le colonialisme, les pratiques de collection, l'ethnologie, l'histoire de l'art, qui oblige à interroger les effets du pouvoir colonial sur la construction des savoirs, au sujet des populations et des cultures matérielles d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'interroger les risques de reproduction de pratiques, de stéréotypes coloniaux dans les formes de collection, dans les formes d'exposition contemporaine. Et en ce sens, ce n'est pas un hasard hein, si on retrouve à ces différents niveaux hein, ce que Sylvester Ogbeshi a proposé d'appeler une orientation anti-hégémonique hein, à propos des pratiques de collection en Afrique. Et c'est le propos de ce récent musée des civilisations noires ouvert il y a 2 ans à Dakar, propos formulé par Amadi Bokoum, son directeur. Hein, ce musée ne va ressembler à aucun autre, car il ne sera pas un musée de l'Afrique subalterne. Et je vous laisse sur ces deux images du musée des civilisations noires à Dakar pour servir de transition avec la prochaine séance de votre séminaire.
Merci beaucoup, Julien, pour cette communication qui était absolument, absolument passionnante et vraiment très, très riche. Alors, effectivement, elle constitue une très bonne introduction à l'ensemble du projet de séminaire que nous avons et notamment à la séance suivante.
Bon, en tout cas, oui, l'idée, c'était d'essayer de faire un panorama rapide, hein, mais avec un certain nombre de pistes pour ouvrir à la réflexion sur ce séminaire. C'est ce qui m'avait été indiqué, effectivement, comme proposition. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien évidemment.
Alors, moi, peut-être en attendant que des questions arrivent sur le fil de discussion, j'en aurais peut-être une ou deux. J'avais une question, en fait, sur votre appréciation un petit peu sur la professionnalisation aujourd'hui des acteurs dans les musées, les types de formation qu'ils ont pu suivre et leur insertion dans des réseaux professionnels internationaux. Et puis, une question plus générale, mais plus sensible aussi, sur quelle est l'appréciation que vous portez aujourd'hui sur le degré d'indépendance de ces musées par rapport au pouvoir politique.
Le degré d'indépendance par rapport au pouvoir politique.
Au pouvoir politique, oui.
D'accord. pour répondre à votre première question, il y a une grande diversification des professionnalisations à l'heure actuelle. C'est-à-dire que jusque dans les années 80-90, pour l'essentiel, ça passait par des formations en France, pour ce qui concerne les pays sur lesquels j'ai mené mes recherches. Avec la création de l'école du patrimoine africain qui est basée au Bénin, a permis de proposer une alternative en quelque sorte et une formation plus proche des enjeux locaux, on va dire. Et il y a d'autres formations qui sont développées, notamment à Alexandrie, à Saint-Louis. Et donc, il y a une diversification des parcours professionnels des professionnels de musée hein, sur place, ce qui explique aussi que l'archéologie est moins présente, la formation archéologique est moins présente dans les postes de direction et il y a une plus grande diversification, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais... Par ailleurs, depuis une dizaine d'années, il y a de nombreux masters qui se sont créés hein, dans les universités sur place aussi. Donc, il y a différents niveaux de formation, mais il y a une montée en puissance de la formation universitaire sur place, spécialement dédiée aux questions de muséologie. Donc, c'est un autre facteur qui explique le fait qu'il y a de moins en moins de parcours type, en quelque sorte. Mmh. Après, il y a une grande différence en fait entre des musées entre les musées nationaux en fait qui emploient des fonctionnaires de l'État et puis les autres musées il y a une différence de formation aussi et de professionnalisation on va dire. Sur l'autonomie par rapport au pouvoir politique, elle n'est pas très grande. Dans les musées nationaux, elle n'est pas très grande. Dans les logiques de valorisation des collections privées, et donc dans les logiques de création de musées privés, là, c'est beaucoup moins... Il y a plus d'indépendance, mais en même temps, comme je l'ai évoqué rapidement, ça s'inscrit quand même dans des logiques... De légitimation politique. Et donc, ça n'échappe pas à des formes de stratégie locale, on va dire. Mmh. Dans un certain nombre de cas, on ne peut pas généraliser, mais c'est-à-dire que les appuis politiques sont souvent recherchés.
Merci beaucoup. Je vois qu'on a plusieurs questions qui sont arrivées.
Alors, je peux les lire, en fait. Et donc, oui. Alors, mais je vais les prendre dans l'ordre. La question des ventes aux enchères, effectivement, là, c'est... J'ai pris une citation d'un antiquaire, et là, on a des antiquaires qui recherchent des objets pour les vendre aux enchères dans les pays occidentaux. Donc, ça contribue à la sortie des objets des pays concernés. Mais précisément, la citation que j'ai proposée de cet antiquaire est ambivalente. Il y a de plus en plus de gens sur place. Il y a quelques collectionneurs qui ont déjà acheté des objets aux ventes aux enchères, vendus aux enchères en Europe ou aux États-Unis. Et des gens qui achètent ces objets et qui, pour leur collection, sur place en Afrique de l'Ouest. Mais c'est rarissime. Dans la plupart des cas, ils achètent les objets avant qu'ils intègrent le marché de l'art occidental. Pour répondre à l'autre question, les objets dans les magasins d'antiquaires sont effectivement le plus souvent des copies artificiellement vieillies. Mais il y a, en fait, quand on et la thèse de Julie Kella que j'ai mentionnée tout à l'heure, une partie de sa recherche, ça concerne les techniques de vieillissement des objets et donc les techniques utilisées par les copistes au Burkina Faso. Et en fait, on se rend compte que l'opposition entre des pièces dites authentiques et des copies artificiellement vieillies, ça ne fonctionne pas forcément aussi bien qu'on l'imagine, puisque les sculpteurs qui produisent des copies destinées au marché de l'art peuvent aussi se voir commander des objets, des masques, etc., des statues ou des masques, par des gens qui vont les utiliser à des fins rituelles. Et donc, en fait, là, c'est vraiment une ethnographie. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches fines. C'est pour ça que cette thèse est particulièrement intéressante. Moi, je n'ai pas fait du tout ce travail auprès des... c'est des milieux qui ne sont pas évidents à intégrer, hein, le milieu de ceux qu'on appelle des copistes. C'est une thèse qui est tout à fait précieuse parce qu'elle apporte des observations ethnographiques fines de ce brouillage des catégories, hein, entre copies et pièces authentiques. Encore aujourd'hui, la question est loin d'être aussi simple que ça. Et donc, bon.
Il y avait des questions sur les relations entre musées et mises sur le marché.
Ah bah, alors, bon, on entend beaucoup parler des questions, des problèmes de pillage dans certains musées, le musée d'Abidjan, par exemple, etc., en cas de conflit. De conflits, de guerres civiles, etc. Il y a des objets qui, effectivement, ont pu sortir des collections des musées et se retrouver sur le marché. Mais en fait, cette question... Alors, est-ce que ces liens se sont transformés depuis dans la période post-coloniale ? J'ai tendance à dire qu'on s'inscrit quand même dans une continuité entre la période coloniale et la période postcoloniale sur cette question la marchandisation des objets. J'en profite pour dire aussi, en lien avec la réponse que j'ai pu faire à la question précédente, c'est que dès le début du XXe siècle, la production d'objets, et même dès le XIXe siècle, il y a des cas d'objets qui sont produits qu'on qualifierait en quelque sorte de copies, d'objets qui sont produits pour être vendus. Donc ça, c'est un processus qui date de la période coloniale, des premières rencontres coloniales. Et donc les pièces dites authentiques côtoient des pièces dites copies depuis la fin du 19e, début 20e siècle. Donc il y a vraiment une continuité et pas du tout une rupture de ce point de vue. Et je ne suis pas en train de dire... que les mises en musée et mises en marché recoupent cette distinction-là. Les remous des restitutions, alors là, c'est passionnant de voir comment, en fait, cette question des restitutions, elle se pose depuis... c'est pas du tout une nouveauté. Alors, bien sûr, là, il y a le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou et puis la remise du rapport de Bénédicte Savoie et Felwine Sarr, relancer ces questions-là, mais c'était déjà, il y avait déjà un rapport qui avait été remis dans les années 80 qui préconisait à peu près le même type de démarche. Et puis, en fait, par exemple, j'ai mis en évidence là récemment que dès les années 50, il y a des chercheurs de l'Institut français d'Afrique noire qui demandent à ce que les objets qui sont dans les réserves dans les années 50 au Musée de l'Homme, que ces objets qui ne sont même pas exposés reviennent à Dakar. Donc, il y a déjà des demandes, en quelque sorte, de relocalisation. On peut difficilement parler de restitution, mais de rapatriement à la fin de la période coloniale d'objets présents dans les collections occidentales. Donc, c'est intéressant de voir, dans les années 30, Valérie Perle qui a mis ça en évidence dans un article qui va bientôt paraître. Dans les années 30, au Bénin, il y a déjà ce type de réflexion aussi. Donc c'est à la fois brûlant d'actualité, on va dire, mais c'est intéressant de retracer sur le long cours, hein, ce type de réflexion sur la conservation sur place, en quelque sorte.
Alors, une question sur le financement aussi.
Ouais, sur les artistes contemporains, c'est clair qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu fort, mais je n'ai pas eu le temps de développer, et aussi parce que je n'ai pas fait de recherche sur les fondations privées et sur les centres d'art. C'est surtout là-dessus, j'ai juste évoqué rapidement à propos du musée des civilisations noires que c'était connecté aussi à la Biennale d'art contemporain de Dakar. Donc, le modèle de la Biennale et de la Fondation, c'est des modèles bien plus importants que les expositions temporaires dans les musées sur place. même si ça joue bien sûr un rôle également. Les musées, la plupart des musées dont j'ai parlé, hein, fonctionnent sur des financements étatiques et très souvent avec l'aide de programmes internationaux. Il y a des formes de coopération diverses et variées. Par exemple, le renouveau, l'aménagement en 1984 du Musée national du Mali a été financé par la France. Hein, et c'est devenu un nouveau modèle pour la sous-région. Hein, c'est ce que je signalais rapidement. Des années 80 aux années 2000, le Musée national du Mali a vraiment fonctionné comme un modèle pour toute la sous-région. C'est un musée qui avait un grand succès, pas forcément auprès de la population locale, parce que en fait, les chiffres de visite montrent que le Musée national du Niger est toujours resté populaire. Mais par contre, en termes de référence muséologique, c'était important et sa rénovation avait été financée par la France. Mais il y a toutes sortes d'acteurs internationaux qui participent au financement de tel ou tel projet de rénovation, de telle ou telle exposition temporaire. Alors, le titre de
la thèse sur les copistes.
Bien sûr, oui. Le titre est d'actualité en quelque sorte. C'est l'art, c'est comme un virus qui te pique. C'est une thèse qui pose à la fois la question des copistes, des vieillisseurs d'objets, des marchands et des amateurs et collectionneurs locaux. C'est basé, c'est sur le Burkina Faso, mais c'est l'essentiel de la recherche a eu lieu à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays.
Merci beaucoup, Julien, pour votre participation et merci au public pour les questions qui ont été posées dans le cadre de notre programmation de formation continue, puisque vous savez que la mission première de l'INP est de former les professionnels du patrimoine, qu'ils soient conservateurs ou non. Dans le cadre de cette formation continue de l'INP, du 6 au 8 avril prochain, nous organisons un séminaire intitulé « Patrimoine africain, outils et ressources pour la connaissance et la présentation des collections ». Toutes les informations et toutes les possibilités aussi pour s'inscrire sont disponibles sur le site internet de l'INP. Merci à toutes et à tous.